prédication, disais-je, avec un beau cairn. C'est dans les Pyrénées que j'ai découvert ces signes de parcours, pour signaler le parcours. Les cairns. D'ailleurs, vous avez les salutations de l'Église évangélique libre de Pau, où nous étions dimanche dernier. Vous savez, Pau, là où a commencé le Tour de France hier, une belle étape dans les Pyrénées. Et donc, ils ont insisté. Nous saluons, enfin, l'Église évangélique libre de Pau salue l'Église évangélique libre de Cannes. Je sais pas si vous vous souvenez de Popeye. Alors, c'est un personnage de dessin animé des baby-boomers, hein. Baby-boomers, ceux qui sont nés après la guerre, 40-65. Maintenant, la génération XYZ. Donc, les générations XYZ ne l'ont pas connu, mais dans les années 60, 70 et peut-être même 80, c'était un dessin animé génial, avec Popeye, le marin, de Sailor Man, avec, j'ai toujours cru qu'il avait des gros biceps, mais non, en fait, il a des énormes avant-bras. Hein, tous les muscles de la main sont là dans l'avant-bras. C'est un homme fort. En plus, il mange des épinards. Et je pense que le dessin animé était fait pour que les enfants mangent les épinards, qui est un légume un petit peu difficile, hein, pour les enfants. Moi, j'en ai moins mangé que Popeye. Et ce qui était intéressant, c'est ce Popeye avec la belle Olive, Oil Olive, la grande, un petit peu maigrichonne, mais il avait le cœur sur la main, Popeye. Et c'est, en plus, ce qui était vraiment sympa avec Popeye, c'est qu'il ne se prétendait pas être le super-héros. Il avait des muscles, mais c'était un homme simple et sans prétention, et il disait souvent cette phrase, « I am what I am ». Alors, le Y est de trop, mais c'est comme en français, il parle, comme dans les docks, un langage de marin. « Je suis ce que je suis ». I am what I am. Et quand vraiment il était convaincu de son incompétence ou de sa faiblesse devant une situation, il rajoutait « That's all I am ». C'est tout ce que je suis. Et c'est peut-être le cri de tous les Popeye et toutes les olives du monde. Je suis ce que je suis et c'est tout ce que je suis. Je suis ce que je suis et c'est tout ce que je suis, ne m'en demandez pas plus. Nous faisons une série sur le livre de l'Exode, qui nous parle de la sortie d'Égypte. L'Exode, le deuxième livre de la Bible, qui est la sortie d'Égypte, un événement fondateur pour les Juifs et pour les chrétiens, cette sortie d'Égypte, cette délivrance de l'oppression de Pharaon sur le peuple. Et on a intitulé cette série « Un voyage dans l'Exode », un voyage spirituel dans ce livre de l'Exode. Et je rappelle les deux premiers épisodes que vous pouvez retrouver en audio sur notre site. Premier, sage-femme, un métier essentiel, parce que tout part de deux petits bouts de femmes, sages-femmes chez les Hébreux, qui font de la désobéissance civile par rapport à Pharaon et qui protègent la naissance des enfants hébreux. Elles s'appellent Shifra et Pua. On dit leur nom, on dit pas le nom du Pharaon, on dit le nom de ces deux sages-femmes. Et j'aime dire que les femmes sont à la genèse du livre de l'Exode. Il y aura d'autres femmes. Et puis, deuxième chapitre, on se pose la question, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques, Moïse? Tu es né dans un panier d'osier sur le Nil, recueilli par la fille de Pharaon, et la première chose que tu fais à 40 ans, c'est tuer un homme, tuer un Égyptien. Tu te prends pour le justicier dans la ville, pour... Comment il s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié son nom. Hein? Charles Bronson, voilà. J'allais dire Charlton Heston, mais lui c'est Moïse dans le... Charles Bronson. Et le texte, le récit ne laisse aucune excuse pour Moïse. Le verbe hébreu dit qu'il frappe pour tuer, qu'il regarde à gauche et à droite pour voir s'il y avait personne, et il frappe l'Égyptien. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? C'est pas comme ça qu'on commence une mission. Tu dois apprendre à travailler non seulement pour Dieu, à servir Dieu, mais aussi le faire de la bonne manière. Et donc, Moïse doit fuir l'Égypte et il se retrouve dans le désert de Madian avec des nomades. Et une longue traversée du désert, et on l'a vu, elle était peut-être pas si stérile que ça, cette traversée du désert. Et on le voit, il passe du justicier dans la ville, flèche, et un désert avec peut-être un soleil qui se lève dans ce désert. Mais en fait, en ce qui concerne la relation de Moïse avec Dieu, dans ces deux premiers chapitres, on est un peu sur notre fin, il ne se passe pas grand-chose. Le mot Elohim, Dieu, apparaît 6 fois, mais jamais en rapport avec Moïse. On suppose que quelque chose se prépare, on suppose que tout cela, la naissance sur le Nil, etc., l'éducation en Égypte ne s'est pas passée par hasard, on suppose que Moïse a reçu un enseignement de la part de Jéthro, prêtre de Madian, sur Dieu, parce qu'il est aussi fils d'Abraham, mais on ne sait rien sur la foi de Moïse, on ne sait même pas s'il a conscience de sa mission. Spirituellement, il ne se passe rien. Spirituellement, la série Voyage dans l'Exode ne décolle pas. Moïse a 80 ans maintenant. Il a fui l'Égypte, il a passé 40 ans avec les nomades, avec sa femme Séphora, ses deux fils. Et on a supposé que cette période au désert lui avait appris quelque chose. Le narrateur semble le supposer, mais rien n'est explicite. Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'explicite, non d'un petit bonhomme. Et il va se passer quelque chose d'explicite, quelque chose de très grand. Une rencontre qui va tout changer pour Moïse et pour nous. Moïse va rencontrer Dieu, rien de moins. Et nous allons lire ensemble le texte dans Exode 3, 1 à 17. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il dit alors: « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Et il l'appela au milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là !» répondit Moïse. Dieu lui dit: « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta: « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit: « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre, le peuple. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, etc. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc, maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Puis, il ajouta un mot. Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Sache que je serai avec toi, » lui répondit Dieu. « Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci, Horeb, ou le Sinaï. » Moïse reprit: « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Alors Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta: « Voici ce que tu diras aux Israélites: « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte où vous êtes en proie à l'oppression pour vous conduire dans le pays des Canaéens, des Hittites, etc., dans un pays ruisselant de lait et de miel. Quel texte ? Quel récit ? Quelle rencontre ? Quel récit grandiose, puissant, une rencontre qui change tout. Nous sommes ici en présence de ce qu'on appelle une théophanie. Phanéo, manifestation, manifestée, révélée, théo, Dieu, une manifestation de Dieu, une révélation de Dieu. C'est tellement grand ce texte que je n'ai pas la prétention ce matin de l'épuiser en une demi-heure, et je vais l'aborder tout à fait simplement et peut-être laisser malheureusement de côté quelques questions que vous vous posez peut-être. Je pourrais essayer de vous répondre par mail, mais enfin je m'engage à rien en disant ça, ou après le culte, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même. Et on commence par ce buisson ardent. Ce buisson ardent qui a été peint par de nombreux peintres, mais j'ai une image de la peinture de Marc Chagall, dont le grand-père de Marjorie, qui est décédé en juin, il y a un mois, jour pour jour, était l'architecte paysagiste. Henri Fiche, qui était membre de notre église, qui est décédé à 96 ans, était l'architecte paysagiste de Marc Chagall. Marc Chagall, qui était juif, qui a peint de la Genèse à l'Exode, une série de 12 tableaux, qui sont magnifiques, qui sont exposés à Nice, et je vous invite à aller voir le musée, ou aller à Saint-Paul-de-Vence, là où il habitait. Et pour le buisson ardent, j'ai un petit peu hésité parce que il y a des drôles de choses sur la tête de Moïse, une sorte de corne. Je me suis dit, est-ce que Marc Chagall a diabolisé, a mis des cornes sur Moïse? Mais en fait, en hébreu, le verbe rayonner signifie aussi porter des cornes. Et donc Marc Chagall a voulu montrer deux cornes de lumière parce que Moïse rayonne. Et ce qui est intéressant, outre le bleu, c'est la couleur type de la couleur préférée de Marc Chagall. D'ailleurs, on lui a demandé pourquoi le bleu et il a répondu parce que je suis bleu. C'est intéressant. Bon, bref. Et vous avez au-dessus là, vous avez l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, signe de l'alliance, et au-dessus un ange qui sourit, on voit pas bien son sourire, mais avec les bras ouverts, comme pour ouvrir la mer des roseaux pour la sortie d'Égypte. À gauche, on voit aussi Moïse qui sourit, là, vous voyez, jaune, rayonnant aussi avec les cornes de lumière, mais qui est sur l'état devant les tables de la loi, qui reçoit aussi cette révélation. Ça, c'est dans Exode 19. Pour revenir au texte, au récit, Moïse voit un buisson qui ne se consomme pas, ou consume pas. Il fait un détour. Et là, Dieu lui parle, ou l'ange de l'Éternel, dans ce cas-ci, c'est tout à fait la même chose, et qu'il appelle Moïse, Moïse, par son prénom. « Oui, je suis là, » répond Moïse, « mais ne t'approche pas. » Un peu étrange pour une rencontre. « Viens, mais ne t'approche pas. » C'est un peu comme « je t'aime, moi non plus. » « Viens, mais ne t'approche pas. » Mais la suite du récit nous donne une explication. « La terre, le lieu où tu te tiens, est un lieu saint. » Kodesh en hébreu. Il y a des versions qui traduisent sacré. Moi, j'aime pas ce mot sacré parce que il veut dire tout et un peu n'importe quoi. Vous savez, non, je vais pas vous la raconter, cette histoire. Mais voilà, tellement... Et ça, et c'est la traduction de Kodesh, saint, ça veut dire mis à part, ça veut dire différent, ça veut dire autre, tellement différent que Moïse même a peur de le regarder en face, peur de se brûler peut-être, et on le voit sur l'image. Je regarde pas directement Dieu. Et donc dans ce buisson ardent, Dieu se présente dans toute sa sainteté, dans toute son altérité, c'est-à-dire il est le tout autre, il est le Dieu transcendant, qui nous transcende au-dessus de nous, Dieu au-dessus de nous, ne t'approche pas, enlève tes sandales, je me couvre le visage, je ne veux pas te voir, tu es trop transcendant pour moi. Et l'image du buisson ardent qui ne se consume pas, qui s'alimente lui-même, est peut-être une image de Dieu, de l'indépendance de Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas de cause. Il est lui-même la cause première. Il n'est pas créé, il est infini. On parle donc de la transcendance de Dieu, Dieu au-dessus de nous. C'est clair qu'il se révèle comme cela dans le buisson ardent. Mais en même temps, quand Dieu se met à parler, il va parler de la souffrance du peuple. J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la détresse, je sais, j'ai vu, j'ai entendu, je sais. Il y est sensible, ça le touche. Et là, vous avez un détail de la peinture de Chagall. Vous voyez tout le buisson ardent à droite et à gauche le peuple qui souffre. Et Chagall a beaucoup peint les pogroms. Et là le peuple d'Israël qui souffre. Dieu est un Dieu tout autre. Oui, certes, mais il s'intéresse aux autres. Il s'intéresse à nous. Dieu avec nous, transcendance, immanence, si on peut utiliser ce mot-là. Un Dieu parmi nous. Un autre terme absolument remarquable au verset 8, c'est pourquoi je suis descendu. Dieu descend parmi nous, parmi son peuple. Plus tard, il nous est parlé de l'intervention de Dieu. Je suis décidé à intervenir, Dieu intervient dans l'histoire et dans votre histoire sans être interventionniste non plus, mais il est présent parmi nous, au milieu de nous, dans ma vie. Et je crois qu'il nous faut faire attention à deux extrêmes comme d'habitude. C'est peut-être de devenir un petit peu déiste à la Voltaire. Je ne peux pas croire qu'à cette horloge, il n'y ait pas d'horloger. Mais Voltaire n'était pas chrétien, il était déiste. Il pensait à quelqu'un, là-haut, complètement indifférent à ce qui se passait sur la terre. Quelqu'un d'extrêmement transcendant, mais indifférent. Et parfois, on peut tomber dans ce sorte de déisme-là. Mais on peut aussi tomber dans l'excès inverse et tomber dans un Dieu qui serait uniquement immanent, le Dieu à mon image, le Dieu à mon service, le Dieu dans mon ressenti personnel, le Dieu que je convoque quand bon m'en semble. Deux extrêmes, on va dire déisme et mysticisme. La transcendance uniquement et l'immanence uniquement. J'aime aussi, pour continuer sur ce buisson ardent, cette tradition juive qui nous dit que Dieu a choisi de se révéler dans un arbuste tout à fait minable. C'est une ronce, c'est un mûrier sauvage, j'ai le nom latin quelque part. Il aurait pu choisir un cèdre du Liban, un arbre plus noble. Mais la tradition juive nous dit que Dieu a choisi l'humilité même dans sa révélation. Le Dieu parmi nous. Le Dieu qui s'abaisse, le Dieu qui descend. Et puis, il y a un dernier détail, je ne sais pas si vous l'avez noté, quand je l'ai lu, j'ai mis un peu d'emphase, parce que moi, en lisant le texte, j'ai vu cette phrase, « Dieu voit le détour que Moïse a fait ». C'est étrange. Il semble que ce détour de Moïse vers le buisson soit déterminant pour la suite, en tout cas que Dieu en prend compte. Et si, on peut s'imaginer, et si Moïse n'avait pas fait le détour? Et si nous n'avions pas fait ce détour vers lui? Dieu est sensible à nos détours. Dieu est sensible à nos amorces de foi. Dieu est sensible à notre histoire, à la fois un Dieu transcendant et un Dieu immanent, un Dieu au-dessus de nous et un Dieu avec nous, transcendance et immanence de Dieu. Alors il est tellement parmi nous qu'il appelle, Yvonne en a parlé, et il appelle Moïse, le tiré des eaux. Moïse, Moïse. Et Moïse répond, je suis là. Belle réponse. Mais non seulement Dieu appelle Moïse, mais en plus, il l'envoie en mission. Verset 10, j'ai vu l'oppression du peuple et maintenant je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Et face à un problème, on a bien envie d'entendre qu'une seule chose de la part de Dieu, c'est qu'ils nous disent « J'ai vu, j'ai entendu, je sais. » Mais Dieu ajoute souvent « Je t'envoie. » On aurait préféré, on préfère souvent que Dieu reste dans la compassion, surtout à notre égard. Mais là, dans ce cas-ci, il envoie Moïse au charbon. Dieu a compassion, certes, Dieu est sensible à la souffrance humaine et la mienne, mais il envoie Moïse et il envoie peut-être d'autres, et il nous appelle, c'est sûr, mais il nous envoie également pour faire partie de son projet d'amour pour le monde, pour faire partie de la solution, pour faire partie de la délivrance. Il envoie Jésus d'abord, Dieu. Mais il nous envoie aussi Dieu compatissant qui appelle, qui voit, qui sait, qui entend, mais qui appelle et qui envoie. Il y a des temps de désert, il y a des temps de préparation pour nous, il y a des temps de théophanie, de révélation, il y a aussi le temps de l'appel et de l'envoi. Il y a un temps pour tout, disait l'Ecclésiaste. Et il me semble, moi, en regardant ma vie, que tous ces temps se mélangent. C'est pas linéaire, chronologique. Tous ces temps se mélangent un peu sous la grâce de Dieu. Mais, comme chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, ce quelqu'un soulève des objections, toujours respectueuses, mais des objections quand même, comme dans les tribunaux. Objection, votre honneur, dit l'avocat. Votre honneur. Objection quand même. Et Moïse et Ésaïe va arguer de son impureté. Mes lèvres sont impures. Comment je vais pouvoir être envoyé par toi? Je veux bien être prophète, mais bon, mes lèvres sont impures. Et Dieu va répondre à cette question. Et Jérémie, lui, va parler de sa jeunesse. Mais je suis trop jeune pour être envoyé. Alors Moïse ne peut pas dire qu'il est trop jeune puisqu'il a 80 ans, mais il a d'autres objections. Il va parler plus tard de sa difficulté à s'exprimer. J'ai la bouche pesante. Et donc Dieu va mettre Aaron dans le coup. Mais ici, il dit simplement, qui suis-je? Qui suis-je pour faire tout cela? Et là, il n'est pas simplement dans l'objection, il est aussi dans l'humilité, il est dans... Il prend conscience de sa propre faiblesse, de la puissance de Pharaon, de l'ampleur de la tâche. Il doit convaincre non seulement le Pharaon de « let my people go », mais aussi son propre peuple. Et il a le souvenir que ça s'était pas très bien passé quand il était encore en Égypte. C'est trop pour moi. C'est trop pour un seul homme. Et là, on rejoint Popeye. I am what I am. That's all I am. Je suis ce que je suis, et c'est tout ce que je suis. Et la réponse de Dieu est comme toujours fantastique. Si j'avais été Dieu, je l'aurais pris par l'épaule et je lui aurais dit, écoute, je t'envoie, mais Moïse, t'es la personne idéale pour ça. T'es préparé, t'as été éduqué en Égypte, t'as une double culture comme ça, t'as été au désert, tu sais comment les Égyptiens fonctionnent, t'es la personne idéale, qui d'autre que toi peut y aller? Tu es fait pour ça. Mais la réponse de Dieu est plus simple que cela. Je serai avec toi. Dieu ne promet pas la facilité, mais il promet sa présence. Et quand Jésus enverra ses disciples en mission, ses disciples, dans Matthieu 28, il va pas leur donner toutes les stratégies d'évangélisation possibles, il va pas leur dire, vous ferez comme ça, vous ferez comme ça, vous ferez une église comme ceci ou comme cela. Il va leur dire, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu promet sa présence, et nous avons peut-être besoin de la réentendre, cette promesse, aujourd'hui. Mais Moïse a été tiré des eaux, mais il n'est pas né de la dernière pluie pour autant. Il va soulever une autre objection au verset 13 qui commence par deux mots très courants dans nos hésitations de la vie. Et si ? Et il y aura un autre « et si » pour Moïse un peu plus loin, en 4.1, donc le point 2b, « et s'il ne me croit pas ?» Et il semble que Moïse soit abonné à cette question « et si ?» cet objet « et si ?» Peut-être que d'autres ont pris un abonnement pareil dans les questions de la vie. « Et si ?» Et si il se passe ceci ou cela ? Est-ce que tu seras toujours avec moi ? Et si l'épreuve est trop forte ? Et si mon péché est trop grand ? Et si la tempête est trop violente ? Et si le gouffre dans lequel je suis est trop profond ? Seras-tu avec moi ? La suite du récit apporte une réponse. Car Moïse va porter le débat, le dialogue avec Dieu sur la question du nom. Et si on me demande ton nom, qu'est-ce que je réponds? Que répondrai-je? Et la question est pertinente et elle nous montre que Moïse ne sait pas grand-chose de ce Dieu qui se révèle dans ce buisson ardent. Et il a aussi peut-être et surtout conscience que les personnes qui va devoir conduire hors d'Égypte ont besoin de savoir au nom de qui il prétend les sortir d'Égypte. Et ces gens-là, ça fait 400 ans qu'ils ont en Égypte, ils ont peut-être eux aussi oublié le Dieu d'Égypte, le Dieu de leur père. Quel nom ? Quel nom ? Comment s'appelle-t-il ? Vont-ils demander à Moïse ? Ra, comme en Égypte, ou Ré, ou Osiris, ou Tout, ou Isis, ou Anubis, et j'anticipe, ou Moloch, ou Baal, ou Astarté, ou plus récemment, Mammon. Et la réponse de Dieu va venir, et encore une fois, avec une exceptionnelle beauté, mais aussi une puissance extraordinaire, une puissance surnaturelle. Il ne va pas parler du dieu crocodile, ou du dieu à tête de chacal, ou même de la déesse de la fécondité, ou de la mère nature. Non, il va avoir une réponse surnaturelle, d'une puissance philosophique et spirituelle, extraordinaire, infinie. Et c'est dans ces phrases-là que je crois vraiment à l'inspiration des Écritures, l'inspiration de la Bible, parce que ça ne s'invente pas. Dieu va répondre, « Je suis celui qui est ». C'est sobre. Mais c'est puissant. En tout cas, c'est pas une réponse habituelle. On va un petit peu s'arrêter sur cette révélation de Dieu, cette théophanie. Je suis celui qui est. Alors, on pourrait traduire, et vous l'avez en hébreu, c'est la deuxième ligne en partant de la droite. Ayez H-A-R et Yeh. Je être, celui je être. On pourrait traduire je suis. On pourrait traduire aussi je serai qui je serai. Il y a la question du temps. On pourrait pas traduire, il faut conserver quand même pour les deux verbes être là, il faut conserver le même temps. Il y a parfois des versions qui traduisent je suis qui je serai. Non. Ou je serai qui je suis, même si les interprétations pourraient être intéressantes après. Non, faut être rigoureux, le même temps quand même. Je suis, je serai qui je serai. Mais je lisais un bon commentaire qui, en s'appuyant sur le contexte, réconciliait les trois temps, vous savez, passé, présent, futur, parce que le récit de l'Exode nous parle à plusieurs reprises du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des ancêtres. Il était leur Dieu. C'est le passé. Il est le vôtre pour toujours, mais il était. Il entend le cri des Israélites, maintenant non, il intervient pour eux, en leur faveur, il les délivre de l'oppression, c'est le présent. Et puis, il va les libérer, enfin, il va leur donner le pays promis, ruisselant de lait et de miel, c'est une phrase adverbiale, proverbiale plutôt, pas adverbiale, proverbiale à l'époque, pour dire un pays d'abondance, c'est le futur. Il sera, il était, il est, il sera. Fidèle à ses promesses, à présent et actif dans l'aujourd'hui, toujours en action demain, c'est tout lui. Et on pourrait résumer, si on peut résumer Dieu quand même, par ces trois phrases, j'ai toujours été ce que j'ai toujours été. C'est la fidélité de Dieu qui est mise en avant, sa cohérence aussi. J'ai toujours été ce que j'ai toujours été. Je suis, et là, alors que nous sommes souvent définis par les autres, Dieu se définit lui-même, et Dieu n'est pas formaté par son identité, il sera ce qu'il a choisi d'être. Il n'est pas contraint. Je suis. Et je serai qui je serai. Dieu, c'est Dieu qui détermine le futur, c'est Dieu qui sera ce qui compte vraiment dans l'avenir. Ça, c'est notre Dieu, les amis. Et un peu plus loin, le nom de Yahvé apparaît. C'est pas je suis, c'est autre chose, avec la même racine verbale du verbe être, Yahvé. Le nom ineffable qui apparaît dans au verset 16, puis tu leur diras, l'Éternel Yahvé, le Dieu Elohim, de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Et c'est là l'apparition du mot Yahvé que nous connaissons bien. Le mot hébreu, Yahvé, quatre lettres, hein, YHWH, vous savez qu'en hébreu, on a à l'origine que des consonnes, j'ai dit voyelles, hein, que des consonnes, les voyelles apparaissent en dessous et par après. D'ailleurs, on ne sait pas comment prononcer Yahvé. Moi, je dis Yahvé parce que on me l'a dit, mais on ne sait pas vraiment comment on prononce. Parce que les Juifs, peu de temps après, comme c'était un nom ineffable, ont décidé de ne pas prononcer ce nom. Et ils mettaient les voyelles d'Adonai, qui veut dire Seigneur, en dessous des quatre consonnes. Et il disait Adonai, Seigneur. On a traduit, nous, par éternel. Avoir un détail encore. Et alors, il a, Chagall, il a quand même fait du jaune et du brun, et vous avez au-dessus du buisson ardent, et là, un détail, le tétragramme, il y avait l'éternel, Adonai, Seigneur, Kurios, en grec. Et, ce mot Yahvé nous rappelle qu'il est l'être par excellence, qui ne tient son existence d'aucun autre. Il est à l'origine de tout ce qui existe par opposition aux idoles qui ne sont rien, qui ne sont que de néant, qui sont vides. qui manifestent une vacuité extraordinaire, qui n'ont aucune existence réelle. Et Moïse peut s'engager avec confiance, malgré la taille de ses adversaires, le pharaon, les dieux, les magiciens, ses armées, puisqu'il a avec lui celui qui est. Il a avec lui, je serai avec toi, il a avec lui celui qui est. Et sur ce nom, Moïse va partir en mission. C'est le Seigneur, je suis, va-t-il pouvoir dire aux Israélites, qui m'a envoyé vers vous. Et Moïse se trouve en quelque sorte protégé par le nom de Dieu. Celui qui se demandait « Qui suis-je ?» trouve sa sécurité en celui qui dit « Je suis, je suis ». Et moi je mets la question de Moïse sur son identité « Qui suis-je ?» ou sa capacité en rapport avec cette révélation de Dieu « Je suis celui qui est ». Il trouve sa sécurité et peut-être même son identité. Moïse trouve son identité en celui qui est. Et en Exode 4:1, et maintenant, donc vas-y. Maintenant tu peux y aller. Et maintenant, faut y aller. Il faut plus se poser la question de savoir qui je suis, plus la question de se poser la question de savoir si je suis égyptien ou hébreu, de ma double appartenance, de ma double identité. Si tu es en mission, tu es avec celui qui est. Et cette mission va le définir en tant que personne, en tant que serviteur, en tant que servante du Très-Haut, en parlant de nous tous, en tant qu'enfant d'Abraham, les fils et les filles de la foi. Et il y a un détail intéressant, vous savez que les années qui ont suivi la sortie d'Égypte pour le peuple hébreu, chaque fois que l'on demandait à un Israélite « Qui est Dieu ?», il lui répondait par une histoire. Et quelle histoire ? L'histoire de l'Exode. Dieu se révèle par ce qu'il fait. Il nous fait faire un dernier détour vers le buisson ardent, vers un autre buisson ardent, vers Jésus. Jésus va reprendre ces mots d'Exode 3. Avec, il est devant les pharisiens, il discute de l'appartenance à Abraham, les fils d'Abraham. Qui sont vraiment les fils d'Abraham? Oh, ben nous, on est les pharisiens, nous, on est vraiment les fils d'Abraham. Pourquoi tu en doutes? Et Jésus va sortir cette phrase absolument incroyable. Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Ego, eimi, en grec. Moi, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis, il y a une concordance des temps un peu incroyable. Mais là, les pharisiens comprennent bien ce qu'il veut dire. Jésus se prend pour Yahvé. Jésus parle de sa préexistence. Et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ils se mettent en colère, ils deviennent fous furieux et veulent lapider Jésus. Il est Dieu, il est non créé, il est de toute éternité, il est Yahvé. Et puis, dans Apocalypse 4, au verset 1, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, dit Jésus. » Avec les trois temps, qui est, qui était et qui vient. En plus, dans un contexte similaire à celui de l'Exode, Apocalypse, on est dans un contexte de persécution de l'Église, d'oppression de l'Église au premier siècle, la fin du premier siècle, comme un peu en Égypte. Et là, la parole de Dieu reprend les mêmes termes pour inviter à la confiance en Dieu, à être confiant sur sa victoire, sur Pharaon, ses dieux, ses enchanteurs et ses armées, et sur toutes les puissances du mal. « Je suis l'étang, » dit, avec un T à la fin, dit Jésus. Celui qui était et celui qui arrive, celui qui vient. Il y a, et je termine par là, le mot de la fin, il y a un beau proverbe qui nous parle de la protection. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Se réfugier dans le nom de Jésus. une protection pour la mission. Nous sommes tous appelés à trouver notre identité, notre force, notre motivation dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de la grâce, celui qui s'abaisse, celui qui intervient, celui qui nous délivre. Dieu est ma sécurité, le nom de Jésus est ma sécurité. Et ça fait penser à un vieux chant de l'époque de Popeye, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est parmi nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Et il y a aussi cette transcendance, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu parmi nous. Venez vous réfugier dans le nom précieux de Jésus. Trois questions pour la route, c'est pas fini, un peu de travail pour vous. Quel aspect de la nature de Dieu qui se révèle comme je suis celui qui est vous fascine le plus? Auriez-vous besoin de revoir votre manière de voir Dieu? Pencheriez-vous du côté déiste, transcendance uniquement, ou du côté mystique, immanence uniquement? Pensez-vous que votre foi devrait être plus équilibrée? C'est dur hein, pour les vacances. Et dernière, à quoi le Seigneur pourrait-il vous appeler aujourd'hui? Avez-vous des objections du genre « Qui suis-je ?» ou « Et si ?» Nous allons prier ensemble.